Question d'assaut.
Le podcast par et pour les assauts. Connaissez la rengaine. Le président prend trop de place, le CA qui n'en fait qu'à sa tête, personne ne nous écoute. Ce sont sûrement autant de signes qu'un changement de gouvernance est à envisager dans une association. Mais comment entamer un tel processus? Qui le prend en charge? Vers quel modèle aller? Comment réfléchir à une nouvelle gouvernance qui corresponde aux besoins et ne pas simplement importer ce que l'on voit ailleurs? Quelles sont les promesses de la gouvernance partagée? Ce sont ces questions que nous vous proposons d'aborder dans ce 21e épisode de Questions d'assaut, le podcast par et pour les assauts en partenariat avec la Maïf. Et une fois n'est pas coutume, pour aborder cette thématique, on reçoit Karl, que vous connaissez bien et qui a cette position d'interviewé. Mais tu ne vas pas parler tout seul, Karl, tu vas parler avec Pascal. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Qui d'ailleurs nous parle de Belgique et vous parlez tous les deux au nom de Designer Éthique. Et c'est vrai que ça fait un petit moment avec Karl qu'on se dit que ça vaudrait peut-être le coup de faire un focus sur nos assos respectifs, parce que mine de rien, et le podcast n'y est pas pour rien, on a quand même évolué et on a cheminé nous-mêmes dans les structurations de nos associations. Et donc c'était le moment de faire un petit bilan. Donc bonjour Karl et bonjour Pascal,
salut,
pour nous
salut.
Raconter tout ça. Nous recevons également Stéphane Veillère qui nous accueille dans les locaux de Copana, mais il y a quelques travaux au-dessus, donc j'espère que ça s'entendra pas trop au micro, mais on fera avec, c'est les aléas du direct. Et donc Stéphane, tu es co-gérant de la Manufacture Coopérative, qui est un collectif de recherche-action qui explore les problématiques de gouvernance, d'organisation, d'autogestion. Bref, que des sujets qui nous intéressent aujourd'hui.
Chic, chic.
Salut Stéphane. Et pour animer ce podcast, j'ai moi-même le plaisir d'accompagner Ludo. Salut Ludo.
Salut.
Cet épisode de Questions d'assaut est réalisé par Guillaume Desjardins de Synchrone TV sur une musique de Sound of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Questions d'assaut sur votre plateforme de podcast préférée, sur Apple Music, Spotify, Deezer, SoundCloud et PeerTube. Vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site web questionsdassaut.com, où vous retrouverez une version textuelle de ce podcast où on est à peu près à jour.
On y travaille. Elles sont faites, mais pas en ligne.
Ah, j'allais dire, et grâce à l'IA, non?
Et
bon, ça,
il ne
faut pas le dire. En tout cas, on est très heureux d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Questions d'assaut. Installez-vous confortablement, c'est parti. Et nous retrouvons Ludo pour l'édito.
Merci Yaël et bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons donc parler de gouvernance partagée. Pour certains, ce mot est synonyme d'espoir et de lendemain qui chante, pour d'autres, de fumisterie. Et pour une majorité, c'est un terme que l'on entend par-ci par-là sans en comprendre tout le sens. Du coup, je vous propose de commencer par une petite définition. La gouvernance partagée vise à réduire ou à supprimer la concentration des pouvoirs entre les mains d'un petit nombre de personnes pour les répartir parmi celles qui réalisent le travail. Mais cette définition, elle est un peu large, un peu floue et même un peu fourre-tout. D'un côté, nous allons retrouver les entreprises libérées et les entreprises opales qui restent très hiérarchisées, éventuellement, et qui vont souvent se donner des airs d'horizontalité alors qu'elles invisibilisent les rapports hiérarchiques. Que ça soit par des méthodes managériales, comme par exemple l'agilité, ou des méthodes plus complexes de délibération, comme parfois, par exemple, l'holacratie, comme ça a été chez, par exemple, Decathlon. En donnant plus d'autonomie opérationnelle aux salariés, l'objectif est en fait d'en augmenter l'efficacité et l'investissement. En somme, une forme renouvelée d'auto-exploitation, si on en revient à Maurice Joyeux, dont je parlais dans un des épisodes précédents. Nous penserons aussi à la démocratie participative et ses nombreuses récupérations, que ce soit la mise en place par des collectivités ou par l'État, comme le fiasco prévisible de la Convention citoyenne pour le climat, et qui fut riche en discussions, en participation et en intelligence collective, mais qui, privé de moyens délibératifs et exécutifs, ne put rien changer à rien. Mais c'est aussi récupéré plus à droite, par exemple, il y a un site qui s'appelle Démocratie Participative et qui est un des fleuron de l'extrême droite sur Internet, et donc ouvertement raciste, antisémite et homophobe, etc. Tout le reste, la collection. De l'autre côté du spectre, heureusement, nous trouvons des initiatives qui tentent réellement de répartir le pouvoir en leur sein et qui pourraient, sous certaines conditions, se rapprocher d'une forme pré-autogestionnaire. Et dans la mêlée, on trouvera des propositions très formalisées ou codées. C'est le cas, par exemple, de la sociocratie. Et vous en avez sûrement déjà entendu parler, et si j'en parle là aujourd'hui, c'est parce que les designers attiques s'en sont largement inspirés, mais ont pris aussi certaines libertés qu'on verra tout à l'heure. Alors, la sociocratie, c'est quoi ? Juste quelques mots, on en reparlera dans l'épisode. C'est, en fait, votre organisation, elle va se structurer en groupes qui s'appellent en général cercles. Ils sont souvent thématiques ou par projet. Et chaque groupe possède une grande autonomie d'action, à condition, enfin en tout cas dans la limite, du fait que leurs actions vont toucher au domaine d'un autre cercle. Donc, auquel cas, si un autre cercle est impliqué dans les décisions que vous allez prendre, il faut l'impliquer, cet autre cercle. Et donc, pour cela, chaque cercle envoie des personnes représentant dans les autres cercles, qu'on peut appeler liens. Les décisions se prennent généralement au consentement, c'est-à-dire quand personne n'estime qu'elles peuvent nuire à ce qui est déjà entrepris dans le collectif. Les élections, elles, se font sans candidat. Donc voilà pour les grandes lignes, à peu près. Si vous voulez en savoir plus, Internet vous tend les bras. Bien qu'à ce propos, un petit avertissement me semble utile. Le principal promoteur en France de la sociocratie est le mouvement Colibri, via l'Université du Nou. Il propose des formations, des supports numériques et même un MOOC, gouvernance partagée. Et donc, il me semblait utile de vous signaler tout de même que ce mouvement est très marqué, même dans ses formations, par ce qu'on appelle une religion contemporaine ou la spiritualité contemporaine New Age. Et par exemple, ils en font le bilan eux-mêmes. L'Université du Nou, pour leur 10e anniversaire, ils ont fait un sondage auprès de leurs différents participants et participantes. Et 30% des personnes formées déclarent qu'un frein concret à l'application de ce qu'ils ont appris en formation, c'est que le contenu serait, et là je cite, « trop New Age ». Donc voilà, c'est à vous de voir si c'est la source que vous voulez privilégier. En tout cas, il y a plein d'autres sources. On en reparlera aussi tout à l'heure. Designers éthiques se sont inspirés d'une autre organisation.
Du coup, ça serait quand même intéressant de voir, à voir si on en discute, de qu'est-ce qu'on entend par New Age et là, qu'est-ce qui est mis derrière, tu vois, je suis curieuse.
Bon, je ne sais pas si on aura le temps de beaucoup développer. Notamment, d'ailleurs, il y a un podcast, par ailleurs. Bon, je fais la pub pour... Non, c'est pas pour la concurrence, ça n'a rien à voir. Oh, pour des alliés peut-être, qui s'appelle MetaChoc, qui est sûrement connu par plein d'auditeurs et auditrices, et qui aborde un tas de thématiques sur le sujet. Bon, alors pour autant, peu importe, c'est pas l'Université du Nou forcément qui nous intéresse là, puisque la sociocratie a été créée par quelqu'un d'autre qui s'appelle Gérard Edinburgh, bien avant, dans les années 70. Et l'intention de départ, c'était notamment de limiter les tensions dans les organisations en mettant principalement en œuvre des décisions qui sont consensuelles. Depuis, la sociocratie elle a été étudiée et quelques limites ont été pointées. Premièrement, les hiérarchies préexistantes peuvent perdurer au travers d'une hiérarchie des cercles. Et notamment, souvent, c'est plus ou moins déguisé. Des fois, c'est très frontalement revendiqué avec un cercle de pilotage ou un cercle d'administration. Et parfois, c'est plus subtil, c'est en réalité, ils se sont rendus compte, les chercheurs qui ont étudié la sociocratie, que en réalité, les cercles qui gèrent l'argent, le budget, vont se retrouver évidemment mobilisés dans plein de décisions, et donc dans plein de cercles, ils vont intervenir, et en fait, c'est eux qui mettent la plupart des vétos et qui prennent la plus grande part dans les décisions en réalité. Voilà, en tout cas, ça, ceci dit, c'est pas contre le modèle, puisque le modèle a été prévu pour calquer. Vous avez un fonctionnement classique hiérarchique, on peut le décalquer vers un modèle sociocratique en cercle, sans que ça ne change grand-chose, finalement, à hiérarchie. Voilà, c'est une possibilité. D'où le fait, tout à l'heure, que l'holacratie est utilisée chez Decathlon, par exemple, qui est assez proche. Voilà, donc c'est pas forcément un modèle qui remet en cause les relations de pouvoir. Et d'ailleurs, Christian Proust, un auteur qui a écrit « Oser s'impliquer pour transformer la démocratie », analysera que les personnes partisanes, par exemple, de l'élection sans candidat, ne sont en réalité pas tellement contre le pouvoir, mais contre le combat pour celui-ci. Et donc les frictions qui vont avec. Une autre limite, que je cite rapidement avant de conclure, c'est que, des fois, avec le temps, la participation elle va rebaisser. Elle a une tendance à monter, et puis, en fin de compte, ça peut s'essouffler, parce que les réunions, des fois, sont trop fréquentes ou trop longues, les prises de décision. Et donc, on se rend compte que, finalement, les personnes acteurs, actrices, vont s'impliquer de moins en moins dans les prises de décision. Alors, pour conclure, comment ça se passe chez les designers éthiques ? Quelles ont été les raisons d'un changement de gouvernance ? Comment celle-ci s'est opérée ? pourquoi cette inspiration et pas une autre? Quels effets sur les relations de pouvoir entre les membres? Quels effets sur leur mobilisation et leur autonomie? Mais aussi sur l'ambiance au sein du collectif? Autant de questions donc que nous allons creuser avec Pascal et Karl, dès à présent.
Rebonjour.
Et merci beaucoup Ludo pour ce premier aperçu. Je pense que ça pose pas mal, ça ouvre pas mal de champs là de questions. Et avant qu'on rentre direct dans le vif du sujet, et ben je vous propose de faire l'exercice de la carte d'identité. Donc Karl, tu vas voir ce que ça fait de la subir, la carte d'identité, et Pascal aussi. Donc merci à tous les deux d'être là. Et pour commencer, en fait, c'est assez simple, la carte d'identité. C'est savoir qu'est-ce que vous faites à Designer Éthique, parce que c'est vrai que tu en mets des petites graines dans le podcast comme ça, mais au moins ça peut permettre de le lire plus précisément.
Est-ce que Pascal, tu veux te lancer dans qu'est-ce qu'on fait à Designer Éthique?
Alors oui, donc Designer Éthique, c'est donc une association de recherche action sur le numérique et plus particulièrement sur les pratiques de design. Donc notre raison d'être, il part d'un souhait qui est de voir advenir un numérique émancipateur, durable et désirable. Donc c'est un vaste programme et qui pose beaucoup de questions, à la fois pour les individus, pour la société et pour l'environnement. Donc on travaille aussi sur les impacts environnementaux du numérique. Donc la cible entre guillemets, ce sont les professionnels de la conception, donc du design numérique. Et par rapport à ça, on dégage 4 objectifs principaux. Le premier objectif est de sensibiliser, donc de faire connaître les enjeux de la conception responsable auprès des professionnels du numérique, de faire s'interroger les professionnels sur le sujet, de les amener à développer une posture critique. Donc on a une position assez technocritique. De faire monter en compétence les professionnels dans la prise en compte de ces sujets, pour éventuellement changer les pratiques et mettre en place des stratégies intrantes par rapport aux commanditaires et les lieux où se passent les projets design, et aussi de fournir des outils ou des méthodes pour mettre en œuvre et sensibiliser sur le sujet. Nos axes de mission, donc on a 3 axes pour atteindre c'est notre objectif. Le premier axe, c'est de mener une recherche donc autour du design responsable, de la conception responsable. Le deuxième axe, d'alimenter donc les communautés autour de la conception responsable. Et le troisième axe est un axe de formation à la conception responsable. Voilà, je pense que j'ai vraiment fait le tour de ce que font des activités de designer éthique.
Merci beaucoup Pascal. Donc je vois que Karl hoche la tête, donc j'imagine que que la description est partagée.
Ouais, partagée. Et puis en plus, c'est là où ça va être intéressant de discuter justement sur les travaux qu'on a eus ces dernières années à Designer Éthique, parce que en fait, ce que vient d'expliquer Pascal, c'est justement le résultat des 3 ans de travail, de mise en commun et de réalignement des membres de l'association pour aboutir justement à cette raison d'être et cet objectif partagé de l'association.
Je reformule pour être sûr d'avoir bien compris. C'est plus un réseau qu'autre chose, mais avec une activité économique, notamment de formation, c'est ça?
Alors, ce qui fait très bien le lien avec la deuxième question qui est comment vous êtes financé, hein?
Ah.
Et là, je peux prendre la main sur les questions de financement de l'association. Comment est-ce qu'on est financé? Alors en fait, Pascal le disait, on a 3 grandes activités qui vont être la formation, l'événementiel, qu'on qualifie comme étant les communautés, mais qui en fait d'un point de vue économique relèvent de l'événementiel, et les pratiques de recherche. Ça représente à peu près chacune de ces activités un tiers de notre budget, 30%, 33%. En ce qui concerne la recherche, on est principalement financé par subventions, des subventions de fonctionnement assez larges qui nous sont octroyées par des composantes de l'État, que ce soit la Caisse des dépôts, que ce soit l'ADEME, ce genre de choses. Des subventions plus spécifiques sur des projets de recherche par l'ANR ou ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment un financement qui est quasi 100% public. Ce qui relève de la formation, par contre, c'est de la prestation de service. De fait, on est en train de devenir organisme Calliope. C'est un des gros sujets du moment dans l'association. Et donc là, on vend nos formations à des professionnels du numérique, notamment des designers qui veulent se former. Et ensuite, on a donc une dernière activité d'événementiel qui, là, est partagée à 50% sur du mécénat, qu'il soit public ou privé. Alors, subvention en fait, ou mécénat classique, et 50% de billetterie des événements que l'on organise. Et tout ça, alors on a une croissance économique, je sais que dans le monde des assos, on a toujours du mal avec ces mots-là, mais le fait est qu'on a eu une forte croissance du modèle économique de l'association ces dernières années, puisque il y a encore 2 ou 3 ans, on avait un budget à peu près de 40 000 euros par an. Cette année, on devrait atteindre les 450 000 euros de budget annuel. Et les prévisions budgétaires de l'asso, c'est qu'on devrait être sur 700 à 800 000 euros de budget d'ici 2 ou 3 ans. Si on regarde les projets en fait, qui sont déjà initiés, qui vont assez probablement atterrir.
Et du coup, avec ce que tu dis, et pour rebondir sur la question de Pascal, un petit sujet sur la lucrativité de l'asso.
Alors oui, un gros sujet même sur la lucrativité de l'asso, puisque nous, on a fait le choix, notamment au fur et à mesure des épisodes de Questions d'Assaut, puisque Questions d'Assaut permet d'aider l'Assaut à travailler sur ces questions-là. On a fait le choix, il y a 1 an et demi, de renoncer à notre statut d'intérêt général, ce qui nous permet d'être complètement lucratif et donc d'avoir une activité économique qui est similaire à celle d'une entreprise, d'une société privée capitalistique classique. Et notamment, ça c'est un choix qu'on a fait lorsqu'on a commencé à faire de la formation, puisque par définition, en fait, on est concurrentiel d'autres structures de formation sur les mêmes champs que nous. Et donc, le choix qui a été fait, parce que la formation, à un moment donné de la vie de l'asso, c'était peut-être 50% de nos revenus. Le choix qui a été fait, c'est de justement devenir à but lucratif au sens fiscal du terme.
Et du coup, ça fait bien le lien avec la dernière question que de toute façon, on va dérouler dans tout le reste de l'épisode, mais qui est les choix d'organisation et même, mais peut-être qu'on le garde pour après, le choix des statuts qu'on peut quand même se poser là en t'écoutant. Alors, est-ce que tu peux revenir très rapidement, peut-être sur les... Enfin, vous pouvez revenir très rapidement sur les grands principes d'Orga et de toute façon, on aura le temps de les redévelopper après.
Est-ce que tu veux le faire, Pascal ?
Les principes de l'organisation, enfin, tels qu'ils existent aujourd'hui après le travail sur les statuts, donc c'est vraiment une gouvernance qui est basée sur l'horizontalité. Donc nous sommes aujourd'hui 13 ou 14 adhérents, 13 je pense, et les gros choix qui ont été faits en termes de gouvernance, c'est d'une part de s'organiser en cercle, donc ça c'est vraiment quelque chose qui vient de la sociocratie, même si je n'aime pas le mot. Donc le mot sociocratie, hein. Donc une organisation par cercle autonome, qui sont des cercles interdépendants, des cercles qui sont calqués sur soit des processus ou les fonctions majeures de l'organisation ou des projets qui sont en cours. Le choix numéro 2 que nous avons fait, c'est d'avoir des adhérents qui sont égaux en termes de prise de décision et cooptés. Donc ça, c'est aussi un choix assez important. Et le troisième choix, c'est de mettre en place des prises de décision par consentement. Donc c'est un peu l'idée, tout le monde ne dit pas oui, mais personne ne dit non. Et qui vont être dépendants de l'importance de la décision, selon qu'on se situe dans une position de décision stratégique, de coordination ou opérationnelle. Et on essaie de prendre évidemment les décisions au plus près des parties concernées avec les gens qui seront le plus impactés aussi par la prise de décision. Donc voilà, en gros, je pense, le fonctionnement actuel.
Top, merci Pascal. Est-ce que tu peux juste rappeler combien il y a de salariés ? Parce que là, tu as dit qu'il y avait à peu près une dizaine d'adhérents, si je ne me trompe pas.
Alors, sur les 14 adhérents, je pense qu'il y a une, deux...
On a 2 salariés actuellement, ce qui correspond à 1,5 ETP. Alors, en fait, on a une salariée historique qui est Anne, qui est salarié, enfin historique à l'échelle de l'asso, c'est-à-dire depuis 2 ans et demi. On a un salarié, donc elle est à mi-temps, on a un salarié, enfin un peu moins d'un mi-temps, mais à peu près. On a un nouveau salarié depuis quelques semaines qui est Thomas Thibault, qui donc est aussi assez présent dans les communautés qui nous entourent à travers le projet qu'il porte, Limite Numérique. Et effectivement, c'est. Alors Thomas, lui, n'est pas adhérent pour le moment de l'association. Il est juste salarié et Anne, elle est salariée et adhérente. Et effectivement, on était très adhérents jusqu'à il y a quelques semaines. Et là, on a une adhérente qui vient démissionner. Donc pour l'instant, on est 12 avec potentiellement 3 ou 4 personnes qui vont rentrer prochainement dans le cercle des adhérents.
Merci beaucoup à tous les deux pour ce premier tour d'aperçu. Ludo, je te laisse prendre la main pour la première partie.
Ok, bah super. Et donc, première partie, je vous propose qu'on discute de d'où vous êtes parti et pourquoi vous avez eu le besoin de changer de gouvernance à un moment donné. Donc d'abord, de quelle gouvernance vous aviez auparavant dans l'association ?
Ouais. Et bah alors, je vais faire le vieux de l'association. en fait, Designer Ethics, donc on s'est créé en 2016-2017. Au départ, on était trois étudiants en master avec Jérémy et Thibaut. Et quand on crée l'association, on fait le choix d'une sorte de gouvernance sociocratique, mais qui disait pas son nom à l'époque, qui était pas pensée comme ça, où en fait on était tous les trois égaux dans l'association, puisqu'on était les seuls adhérents, on n'avait pas de système d'adhérents, on était tous les trois égaux, et donc on partageait le titre de co-président de l'association. Ça a duré 2 ans à peu près, 1 an et demi, 2 ans. C'est le moment, alors peut-être que aussi pour expliquer l'histoire de l'asso, en fait l'asso elle se crée à la base pour porter ce qui est encore un de nos principaux projets dans l'asso, qui est notre événement qui s'appelle Ethics by Design, qu'on organise tous les 2 ans. Et en fait Ethics by Design, on commence à l'organiser quand on est étudiant en master, la première édition, et on a besoin à un moment donné d'une structure juridique pour le porter, et donc on crée une asso. Et en fait, l'asso, c'est un peu le dernier truc dont on s'occupe à ce moment-là. On écrit des statuts à l'arrache. Et Jérémy dit, bon, bah, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas tous égaux dans l'association ? Et bah, d'accord, faisons des statuts, on est tous égaux dans l'association. On est trois, on est coprésident. Tout le monde se fait tout dans l'asso. Parce qu'en fait, finalement, l'asso n'avait pas tellement d'importance. Ce qui comptait, c'était l'événement. En fait, on n'avait même pas forcément l'intention de porter l'association au-delà de la première édition de l'événement. On s'était dit, bah, on verra au bout de 6 mois ce qu'on en fait. Peut-être qu'on la dissolvera. Et en fait, on l'a gardé. Bon. Et donc, on a cette association, on est trois, on partage les statuts de coprésident. Et donc, on décide de continuer l'association après la première édition de Ethics by Design, ce qui nous amène, en fait, à développer d'autres activités. Donc, il y a des gens qui commencent à graviter autour de l'association, on commence à organiser des petits événements, donc il y a des personnes qui sont plus ou moins récurrentes, etc. Et pendant 2 ans, en fait, ces personnes ne vont pas avoir de rôle dans la gouvernance, même dans l'association de manière générale, puisqu'elles ne peuvent pas adhérer, en fait. Et que ça crée une sorte de scission assez importante entre d'un côté les trois fondateurs que sont Jérémy, moi et Thibaut, et de l'autre côté le reste des adhérents. D'autant plus que assez vite Thibaut, vas-y, ouais.
Ouais, et peut-être pour repréciser, là quand tu dis qu'il y a des personnes qui gravitent, tu peux peut-être dire comment elles gravitaient. C'était, vous avez un Slack, enfin il y avait un truc qui faisait que ça faisait aussi quelque chose, on avait l'impression que vous étiez genre 2000.
Alors pas au début,
et
mais...
en fait, non, pas... un peu quand même.
Ouais, au début, effectivement, ça prend assez vite la forme du Slack. En fait, je pense que ouais, dans les 2 premières années, il y a une 20-30 de personnes qui gravitent autour de l'asso, mais qui effectivement ont pas de statut. Ça passe effectivement par notre Slack, ça passe par les apéros qu'on organise. On était beaucoup plus focalisé sur Lyon et Paris au départ. Et donc voilà. Et en fait, assez vite, ça va changer. Déjà parce que parmi les cofondateurs, Thibaut va assez vite s'éloigner de l'association pour des raisons pro. Jérémy va aussi un petit peu s'éloigner au bout d'un an, 1 an et demi. Et puis, il y a Amélie qui arrive, qui est une des premières membres actives, enfin, adhérentes actives de l'association. Et en fait, au bout d'un an et demi, après la 2e édition de notre événement Ethics by Design, on fait le choix avec Jérémy. À ce moment-là, on n'est plus que 2 vrais coprésidents et donc les 2 seuls de vraiment adhérents de l'association, de changer les statuts pour aller vers une gouvernance qui est beaucoup plus classique, c'est-à-dire avec un bureau, un conseil d'administration et une assemblée générale, enfin des adhérents. Et donc, c'est à ce moment-là où on ouvre l'adhésion à l'association. Alors, dans un premier temps, il n'y a pas de conseil d'administration. Donc, en fait, il y a le bureau et des adhérents. Et dans le bureau, on fait rentrer Mélie, qui donc devient coprésidente. Et en fait, Jérémy part quasiment aussitôt après. Ce qui fait que, en fait, on est toujours 2 coprésidents dans l'association.
Ouais, tu veux dire par là qu'il n'y a pas de CA, ça veut dire que le CA et le bureau sont confondus, c'est les mêmes personnes.
Ouais, en fait, le CA, on l'a créé 1 an après avoir ouvert le corps des adhérents.
Ok, et à chaque fois, vous avez fait des changements de statut,
ouais.
Ou c'était un peu...
Okay. Ah bah c'est une époque où on fait des changements de statut tous les 6 mois.
Hein. Ouais, et il y a aussi peut-être quelque chose, parce que j'ai un peu suivi votre évolution depuis le temps qu'on... Bon, je pense qu'on s'est connus quand tu as créé ton asso à peu près. Il y avait aussi quelque chose, que tu l'as dit, c'était structuré autour d'Ethics by Design, donc de l'événement, et ce qui fait qu'il y avait toujours des comités ad hoc. Enfin, je pense que vous n'aviez pas de CA, mais en même temps, il y avait des conseils scientifiques, par exemple, qui suivaient les éditions. Donc, En fait, il y avait un espèce aussi de mélange entre stratégie, réflexion sur qu'est-ce qu'on entend par numérique éthique, éthique du numérique, etc. Et je pense que ça vous nourrissait. Enfin, il y avait quelque chose... en fait, vous aviez plein de comitologie, même si ce n'était pas le CA et ce n'était pas clairement des instances de décision. Enfin, je ne sais pas, mais d'un point de vue extérieur, c'est comme ça que je le voyais.
Effectivement, ça, c'est quelque chose qui est assez vrai. Et en fait, lorsque Jérémy part et que Mélie et moi, on se retrouve tous les deux, on s'est quand même posé pendant 3-4 mois pour se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait de l'assaut ? C'est quoi le futur de l'assaut ? Et effectivement, il y avait cette question de savoir, est-ce que ça reste uniquement le développement de Ethics by Design ? Est-ce que, enfin, le fait de porter Ethics by Design, est-ce qu'on explore d'autres thématiques ? Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont avec nous ? Est-ce qu'on a une activité communautaire, enfin, d'animation de communauté, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on fait le choix de devenir, alors ce qu'on a longtemps dit, c'est-à-dire être une asso de recherche-action, d'avoir une activité de plus de recherche, de continuer à porter l'événement et d'essayer d'avoir un impact sur la façon dont les professionnels du numérique agissent dans leurs organisations. Et donc à ce moment-là, on va créer le conseil d'administration, justement. Donc là, on est un an après avoir ouvert le corps des adhérents. On crée le conseil d'administration et on le crée dans une optique de dire, bah, toutes les personnes qui sont à peu près actifs dans la structure, on leur permet d'avoir un endroit, alors pas tellement où ils vont pouvoir participer à la décision, parce qu'à la base, c'est pas tellement ça l'objectif, c'est surtout d'avoir un endroit où elles vont pouvoir voir ce qui se fait dans toute l'asso. Parce qu'une critique qui remonte très très vite de toutes les personnes qui sont dans l'asso, c'est de dire, en fait, on ne voit pas ce que font les autres. Parce que justement, il y a plein de petits comités, comme tu dis, Yael, qui gravitent autour de nous deux, Mélie et moi. Mais en fait, personne n'a une vision globale comme nous, on l'a. Et donc, le rôle du conseil d'administration, au départ, c'est ça. À ce moment-là de la vie de l'asso, on a encore gardé un truc assez... Enfin, ça devient un truc assez bizarre, mais c'est donc gardé de la précédente version des statuts. C'est que Mélie et moi, on est tous les deux coprésidents à vie, injartable, il n'y a pas de système d'élection. En fait, on est vraiment dictateur à vie, quoi. C'est un peu ce réflexe de ceux qui créent une asso, de pas vouloir se faire déposséder de l'asso. Et donc, tu verrouilles tout à tous les niveaux. Et donc, bah voilà, t'es un peu injartable. Et en fait, à partir du moment où on a ce système-là qui est en place, c'est-à-dire de conseil d'administration qui n'a pas pour objectif de vraiment prendre part aux décisions au départ et de binôme à la tête de l'asso qui a tous les pouvoirs, bah de fait, ça se passe pas forcément très très bien au niveau du premier conseil d'administration qui est mis en place par l'association, au sens où on va avoir beaucoup de turnover, des personnes qui savent pas vraiment pourquoi elles sont là, qui arrivent pas à se saisir des enjeux de l'association, et en fait, je pense que le principal point, c'est qu'on a beaucoup de turnover. Pas forcément des gens qui partent en claquant la porte, mais par contre, des gens qui se désinvestissent, qui se démobilisent, et donc, assez vite, je ne sais pas si c'est Mélie et moi qui vraiment avons cette idée de... Enfin, Mélie plus que moi au début, c'est sûr, de se dire qu'il faut faire évoluer les choses. Mais assez vite, effectivement, les adhérents de l'association vont... Les membres du conseil d'administration vont nous demander de faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là où on fait appel à roulement de tambour. Ta-ta-ta-ta-ta, Yael.
Il y a des conflits d'intérêts dans cet épisode.
Vous nous dites si on vous dérange.
Ouais, voilà. Puisque Yael, dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie, en tout cas à titre professionnel et sociologue des organisations, ça tombe bien. Et que donc, en fait, nous, on se pose la question de quel audit interne, enfin quel constat est-ce qu'on peut dresser de la façon dont on fonctionne et comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer les choses. Et à ce moment-là, on se dit, bah tiens, on va demander à Yael de faire une mission sur nous.
Et il y avait quand même une autre demande, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais t'étais plus réticent que Mélie. Et t'étais un peu là, genre, ah, Mélie, elle me force à faire appel à des cabinets de conseil, là, et ils vont nous imposer des trucs. Et en fait, comment faire le truc intelligemment pour pas que, en fait, on nous force à aller dans un modèle alors qu'on fonctionne quand même très bien. Il y avait un peu ça dans la demande initiale.
De conserver une certaine maîtrise dans là où on partait.
En tout cas, qu'est-ce qu'on met en place pour commencer à cheminer ensemble sans avoir l'impression d'avoir quelqu'un de complètement extérieur qui t'impose quelque chose. Donc j'avais ce rôle un petit peu délicat de intérieur, pas intérieur, parce que je ne faisais pas partie de l'asso, mais beaucoup de gens dans l'asso me connaissaient. Voilà, pour commencer à initier quelque chose.
Et donc, à ce moment-là, effectivement, donc on missionne Yaël et Morgane, qui faisait partie du collectif BAM à l'époque, Morgane Chevalier, pour faire une mission où, en fait, vous allez aller interroger, je ne sais plus, c'était une dizaine de membres de l'assaut, à peu près.
C'était même tous, puisque vous étiez, comme tu disais, entre 10 et 15.
Ouais. Donc, et donc, ces membres de l'asso, vous... Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est toi qui fais les grandes conclusions que vous tirez Parce qu'en fait, Yaël, quand elle nous fait le débrief de cette session, elle nous dit « Vous allez mettre un mois à le digérer. » Nous, on a mis 2 ans. 2 ans de travail pour reprendre tout ce qui est ressorti de l'audit. Alors, néanmoins, si je peux me permettre de faire un instant pub pour Yaël, c'est utile de faire ce genre d'audit, et notamment de les faire tôt, avant que les conflits sortent vraiment de l'organisation, parce que je pense que ça nous a évité beaucoup de crises internes. Alors, on a eu des crises internes après, mais qu'on a mieux su gérer, parce que justement, on savait ce que les gens pensaient, on savait quels étaient les points de tension et ce sur quoi il fallait qu'on travaille. Et ça nous a permis de reprendre les choses dans le bon sens.
Et peut-être pour faire un petit point là-dessus, en fait, c'était très simple la méthodologie qu'on avait mis en place. Déjà, vous étiez comme une petite équipe, parce que 10 personnes, je pense que c'est, on fait pas la même chose dans une asso qui a 500 membres ou, enfin voilà. Donc là, nous, on s'était concentrés et vous étiez à un moment, je crois que tu l'as dit, où en fait, vous veniez d'ouvrir le CA. Et quelque chose que tu n'as pas dit quand même, c'est qu'à l'époque, vous aviez des antennes régionales. Donc, ce qui complexifiait aussi ce côté opacité de, ben, en fait, il y a des comités un peu stratégiques où d'ailleurs, parfois, il y a des gens, je parlais des comités scientifiques qui ne sont pas dans l'asso. Il y a le Slack où il y avait je ne sais pas combien de membres. Moi, ça me semblait énorme. Donc, peut-être que ce n'était pas des milliers, mais au moins des centaines, ça c'est sûr, qui pour le coup ne participaient pas à la vie de l'asso. Il y avait dans 4 régions des espèces de mini designers éthiques là, qui se mettaient en place. Et effectivement, il y avait un enjeu de... On va dire... Et ce qui était marrant, c'est qu'au début, quand vous aviez mis en place le CA... Moi, tel que vous me l'aviez présenté, et dont je me souviens, c'était quand même en 2021, donc ça date un peu, hein, peut-être que je réécris, mais il y avait cette idée de dire, bah, en fait, on va valoriser les membres actifs, et en gros, on va les valoriser en leur donnant un statut au CA. Et en fait, c'était plutôt... Et c'était aussi un moment où vous alliez avoir des sous pour salarier votre première personne.
Ouais.
Et donc, il y avait cette question aussi de qui est-ce que vous allez salarier, pour quel type d'activité. Et ce qui était intéressant, c'est que effectivement, en fait, le pari d'ouvrir le CA en disant, en fait, ça va valoriser, il y a une forme de reconnaissance. Bah, comme tu l'as dit, en fait, ça a été contre-productif parce que c'est pas parce que tu t'impliques dans l'asso que tu as forcément envie d'être au CA. Et puis, gérer quand toi, tu es dans l'antenne Bretagne, avoir les financements de ce qui se passe à Paris. Enfin, il y avait plein de choses qui n'étaient pas très claires sur en fait, à quoi sert le CA. Et aussi, une forme du coup pas claire de qu'est-ce qu'est l'asso, qui fait partie de l'asso, à quoi sert l'asso, comment on veut s'engager dans l'asso. Enfin, il y avait un peu tout qui était mêlé et qui était un peu lié aussi à beaucoup, bah, tu l'as dit, vous étiez tous les deux quand même un peu chef maître à bord, de projection de vous, vos problématiques, en vous disant, bah, si nous, on a ces problématiques-là, et notamment la question de la charge de travail, forcément, les membres, ils vont avoir exactement la même. Et en fait, ça ne se jouait pas forcément de la même manière, parce que bah, les membres, tout simplement, c'est pas la même chose que des fondateurs ou que des personnes qui dirigent l'asso, qu'ils peuvent partir plus facilement, que la question de la fidélisation est un petit peu différente, que ce n'est pas eux qui font les charges administratives. Enfin, voilà, il y avait une forme d'engagement qui était pas le même. Vas-y, Stéphane.
Alors, je veux pas interrompre le fil de l'histoire parce que c'est vachement intéressant, mais il y a une question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. J'en ai deux même, en fait. La première, c'est pourquoi dans ce raisonnement ne pas avoir opté pour plutôt une forme coopérative? Ah, je sais, hein, je suis désolé, moi je défends toujours un peu la coopération, mais j'ai pas d'a priori là-dessus. Mais quand tu dis par exemple que c'est une association qui est lucrative, bah non, une association ça peut pas être lucratif par définition, quoi. Les statuts ils sont non lucratifs, et donc se transformer en en une SCOP, par exemple, une coopérative de travailleurs, à partir du moment où on se dit, en effet, à l'intérieur de l'ASSOS, les adhérents, l'ASSOS a vocation à peut-être leur apporter du travail, s'ils deviennent formateurs, s'ils deviennent... voilà, donc si l'ASSOS, elle leur apporte du travail, elle fait d'eux des travailleurs, pourquoi ne pas basculer dans une formule de coopérative de travail, où là, bah, finalement... Un, on assume complètement la lucrativité du truc, quoi. Enfin, il n'y a plus de problème avec ça. On est là pour se fabriquer notre travail. Et puis deux, on règle aussi ce problème de décalage possible entre salariés et adhérents, puisque là, bah, voilà, on est les adhérents quelque part sont les travailleurs, quoi. Et donc, ça ne retire absolument rien à la démarche qui a été faite, mais il y aurait peut-être une certaine logique à ça, quoi. Donc, est-ce que vous y avez pensé? Pourquoi vous l'avez écarté? Voilà. Et alors, la deuxième question, pardon, je suis long, mais la deuxième question, c'est moi, ce qui me semble déterminant dans cette histoire, à un moment donné, c'est quand même le passage, c'est le fait d'avoir des salariés, à un moment donné, qui, on sait quoi, dans les associations, souvent, c'est le moment de bascule, quoi, parce qu'à partir du moment où il y a des salariés, bah, il y a une fonction employeur, et donc, la fonction employeur, là, on rigole plus, quoi, il y a de la responsabilité pénale, opérationnelle, au quotidien, qui est quand même un peu lourde, quoi. Donc, comment elle se gère chez vous? Comment est-ce que on l'a inscrite finalement dans la démarche, notamment sociocratique? Comment est-ce que gérer cette fonction employeur?
Alors sur la première question qui est de la coopérative, c'est régulièrement une question. C'est-à-dire que on s'est régulièrement posé la question dans l'histoire de l'association de savoir est-ce que on doit devenir une vraie entreprise et abandonner le statut associatif ou pas. Alors, on a toujours fait le choix de ne pas y aller pour plusieurs raisons, au sens où à chaque fois qu'on s'est posé la question, les raisons étaient un peu différentes. Au départ, on n'y est pas allé parce que, en fait, on n'avait pas les moyens, l'activité économique nécessaire pour y aller. C'est-à-dire qu'on avait une activité économique qui était trop faible pour se salarier à temps plein, etc. Et en fait, quand on voyait ce que nécessitait le minima des coopératives, ça sous-entendait des ETP qu'on n'avait absolument pas. Et donc, en fait, à ce moment-là, on ne connaissait pas trop le système des CAE, etc. Donc, on a fait le choix de rester en modèle associatif. Et puis ensuite, on a, et en tout cas, moi, c'est un argument que je porte beaucoup au sein de l'asso, un vrai attachement au modèle associatif et à ce qu'il transcrit. Et donc, quand je disais qu'on est à but lucratif, en fait, on est à but lucratif d'un point de vue fiscal, c'est-à-dire qu'on est fiscalisé comme une entreprise. Par contre, on reste une association au sens où il n'y a pas de redistribution du bénéfice. On a vraiment cette idée qu'on travaille dans un système acapitaliste. Je ne sais pas si on peut dire... Parce qu'on n'est pas vraiment anticapitaliste, on ne lutte pas contre le capitalisme, mais on n'est pas capitalistique au sein de l'association. Et donc, en fait, comme Framasoft a développé... Moi, je me suis beaucoup, je ne sais pas si on peut dire inspiré, mais en tout cas fait influencer par le discours de Framasoft sur l'intérêt de défendre le fait associatif, le monde associatif, même quand on a un modèle d'entrepreneuriat associatif. En fait, on est beaucoup resté là-dessus, et c'est pour ça qu'on est resté jusqu'à aujourd'hui une association. Même si aujourd'hui, notre modèle nous permettrait d'évoluer assez facilement vers une SCIC, en fait. Peut-être que c'est un choix qu'on fera un jour quand notre activité économique sera très conséquente. Mais en tout cas, c'est un choix qu'on n'a jamais dépassé aujourd'hui.
Ouais, bah pour la SCIC, ceci dit, il y aura la même difficulté entre salariés et adhérents. Enfin, il y a différents... Donc, ce sera sûrement pareil qu'une asso.
Ouais.
Mais ceci dit, est-ce que vous gardez une partie... Est-ce que vous avez sectorisé votre activité? Non. Parce qu'il y a des parties... peut-être non lucrative, comme le festival peut-être?
Ouais, alors c'est justement non, puisqu'en fait on vend de la billetterie, et qu'en fait à partir du moment où t'as de la billetterie, bah, t'es concurrentiel d'événements qui pourraient... En fait c'est assez compliqué, hein. Enfin, finalement ce qu'on dit à question d'asso sur le fait que il y a cette injonction paradoxale des associations à devoir être d'intérêt général, à porter une activité, mais qu'en fait on nous subventionne pas et on nous pousse à développer une activité économique, bah en fait nous c'est ce qui clairement nous a amené à devenir lucratif, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où quand tu fais de la billetterie pour tes événements parce que tu peux pas avoir des subventions publiques pour tout payer, bah en fait, de fait, tu deviens lucratif. Et ça, c'est un vrai... En fait, on a été d'une certaine manière obligé d'en passer par là parce qu'à un moment, on était complètement bloqué. On se revendiquait d'intérêt général et on pense toujours qu'on a une activité qui est d'intérêt général. Mais le fait est, c'est que, bah en fait, voilà, fiscalement, ça rentre pas du tout dans les clous de ce qui est attendu.
Stéphane, tu veux
juste 10 secondes pour lever un malentendu. Mais ça me fait dire qu'il faudra peut-être faire une émission un jour là-dessus. Non, une coopérative n'est pas plus capitaliste ou moins acapitaliste qu'une association. Hein. C'est exactement pareil. On pourrait presque dire qu'une coopérative, c'est une association qui assume une dimension commerciale. Mais voilà. Donc, il faudra qu'on en reparle.
Bah, avec plaisir. Et moi, cette question de statut, mais après, peut-être que Pascal pourra aussi donner lui sa vision des choses. Moi, au départ, je me souviens quand on a commencé à faire là, ce petit diagnostic interne, moi, je me demandais, mais en fait, pourquoi pas un syndicat ? Parce que il y a quand même, vous avez une dimension professionnelle qui est quand même, enfin, je veux dire, vos membres, c'est pas n'importe qui, ce sont des professionnels. Et ce côté de faire valoir la conception numérique, enfin, il y avait quand même un côté un peu déjà de faire connaître qu'est-ce que c'était comme activité. Et il y avait un peu de défense d'intérêt que finalement, en fait, vous n'avez jamais assumé. Donc, je me dis, c'est moi qui avais envie que ça rentrait dans votre modèle. Et en fait, non. Mais oui, du coup, c'est intéressant aussi de voir le choix que vous avez fait sur la recherche.
Et du coup, sans écarter la question du salariat sur laquelle on reviendra, si tu veux bien, après, une fois qu'ils justement, ils auront un peu plus expliqué comment ils ont, vers quoi ils sont allés et comment, pourquoi, ensuite on verra effectivement comment vous avez géré cette histoire de salariat et comment peut-être déjà c'est dans votre processus de changement de gouvernance, ça a eu un impact ou pas. Du coup, bah, justement, comment vous avez fait le choix de telle ou telle gouvernance ensuite et comment ça s'est passé ce processus, ces 2 années donc de transformation?
Alors avant de passer la main à Pascal sur comment justement on a fait le travail de gouvernance, peut-être juste finir sur cette partie d'historique. Donc en fait, voilà, 1 an après avoir créé le CA, on appelle Yaël au secours. Ça donne lieu à une restitution du travail avec tous les membres de l'asso pendant un week-end associatif qui était le premier qu'on a organisé. Il y a un point qu'on n'a pas cité. Alors voilà, Pascal là est à distance pendant l'enregistrement parce que Pascal est en Belgique. Moi, je suis basé à Nantes. En fait, on est dispatché dans toute la France et au-delà. Et donc, en fait, on ne se voit jamais. On travaille tout le temps en visio. Et donc, en 2021, au moment où il y a cette restitution du travail de Yaël, on fait ce qu'on a introduit depuis, c'est-à-dire qu'on a notre premier moment où on se voit physiquement, ce qui va aussi changer pas mal de choses dans la façon dont on mène l'asso. Et depuis, ça, c'est un truc qu'on a institué, c'est qu'on se voit 2 fois par an. Il y a 2 week-ends par an qui sont organisés pour réunir les membres de toute la France et de la Belgique. Et donc voilà, donc c'est le premier week-end. Et à partir de là, on va initier. Alors, on va déjà mettre un peu de temps à digérer ce que nous dit Yaël. Et à partir de ça, on initie un travail qui vise à dire on va. Enfin, en tout cas, moi, j'étais assez opposé à ça. Notamment, c'est quelque chose que demandait assez fortement un autre membre de l'association, Raphaël, qui était de réécrire les statuts. Moi, j'étais assez opposé à l'idée de réécrire tout de suite les statuts, parce que j'étais à peu près persuadé que si on se lançait après ce que nous avait ressorti Yaël et Morgane, direct dans une réécriture des statuts, on partait un peu dans le mur, parce que en fait, on n'était pas au clair sur qui on était, qu'est-ce qu'on voulait faire, où on allait. Et donc, on se lance d'abord dans un travail. Et Pascal n'est pas encore là à ce moment-là, dans un travail de reclarification de la raison d'être de l'asso. Et donc, ce qu'a dit tout à l'heure Pascal sur la présentation de l'asso, c'est vraiment ce qui ressort de ça. C'est-à-dire que là, on passe 2 ans à travailler sur c'est quoi ce qu'on cherche voir advenir pour le numérique et pour les professionnels du numérique, quels objectifs on se donne vis-à-vis de ça, qui on cible, comment on le cible, et comment est-ce que ensuite on va atteindre nos objectifs, avec quels moyens et quelles actions on se donne. Et donc c'est vraiment ce qui découle de tout ce que a dit Pascal dans l'intro de l'asso. Et une fois qu'on est au clair sur ça, donc ça nous prend à peu près 2 ans, et ben là, on se pose la question de, ok, maintenant on est tous alignés, et ça c'est un truc qui a été, je pense, assez important dans la suite de l'histoire, c'est que finalement, à partir de ce moment-là, on commence à avoir arrêter un peu l'hémorragie des membres de l'asso, même si on a 2 membres qui claquent la porte de l'asso pour des raisons partiellement liées à ça, partiellement liées, enfin, à la fois sur ce qu'on fait comme typologie d'action dans l'asso, c'est-à-dire les thématiques qu'on adresse et à la fois la manière dont on l'adresse en termes de gouvernance interne. Donc on a 2 membres qui claquent la porte et après ça, on arrête l'hémorragie. Les membres vont vraiment rester beaucoup plus longtemps. Et on a de nouveaux membres qui commencent à arriver. Et c'est là où on se pose la question de, bon, bah ok, maintenant, comment est-ce qu'on va réécrire les statuts ? Et je rajoute une dernière dimension, avant de vous laisser reprendre la main. Effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, Stéphane, un des enjeux qui va apparaître, c'est la problématique de la gestion des salariés qui sont là, je ne vais pas dire à temps plein, parce que Anne n'est pas là à temps plein, mais à mi-temps. Et puis, il y a d'autres personnes dans l'asso. Je pense à Aurélie, qui est freelance pour l'asso, mais qui bosse à mi-temps aussi pour l'asso. Moi, je bosse aussi à mi-temps pour l'asso, enfin, l'équivalent d'un mi-temps pour l'asso. Et en fait, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on commence à avoir un gap entre les personnes qui travaillent vraiment énormément pour l'asso, qui sont vraiment focalisées sur la partie de professionnalisation, et les personnes qui sont bénévoles et qui consacrent une, deux heures par mois pour organiser un meet-up, pour animer une antenne. Alors des fois, c'est quand même évidemment plus que ça. Mais en fait, il y a un gap qui va commencer à se créer sur la durée d'engagement et la profondeur de l'engagement pour l'asso. Et ça, c'était aussi un gros sujet des statuts, en fait.
Je reviens juste sur effectivement le côté hémorragie, et ça c'était, je trouve que c'est assez intéressant, surtout qu'après, et là je veux bien que vous nous représentiez un peu, voilà, un peu le modèle choisi, ou peut-être vos petits tâtonnements, et là ce sera peut-être plus Pascal aussi qui pourra reprendre la main là-dessus. C'est vrai que ce qui était hyper intéressant donc en 2021, c'est qu'en fait il y avait des visions de l'asso très très différentes, et donc on voit bien que là dans ce cadre-là, partir direct sur quelque chose qui aurait été du consensus, en fait, c'était pas possible. Parce qu'il y avait des choix de. Ben vraiment des choix d'activité, de vision, qui étaient. Et des choix, en fait, stratégiques, qui étaient vraiment un peu diamétralement opposés. Donc, je trouve que c'est intéressant, là, ce que tu viens de dire, de dire, ben, en fait, à un moment, on a fait le choix, et c'était un choix qui, du coup, n'était pas consensuel, et qui a permis de stabiliser quelque chose.
Ouais.
Et du coup, Pascal, est-ce que tu veux nous expliquer un peu comment s'est fait le processus, les tâtonnements, etc., vers le choix plus ou moins de la sociocratie ?
Ok, donc moi, pour clarifier, donc moi, je suis arrivé en 2022 lors d'une de ces fameuses journées associatives où on s'est rassemblés dans un tiers-lieu, donc ici à Bruxelles, à partir duquel je travaille. Et en 2023, donc ce travail de refonte des statuts... a commencé à partir du travail qui avait été fait par Yael, et sur une allocation ouverte des rôles, comment on fonctionne en sociocratie. Donc on a commencé à écrire ces statuts à 10 mains, donc Anne, donc Mélie et Karl, et Raphaël et moi. Et on s'est donc, on s'est dit, faisons table rase. Et voilà, donc on s'est rassemblés de manière assez régulière en système de visioconférence, en repartant un peu d'une page blanche et en s'inspirant d'autres associations. Enfin, moi étant assez actif dans le milieu associatif bruxellois, donc je dirais qu'il y a trois exemples qui nous ont inspirés. C'est d'une part un travail d'intervision qui s'est fait ici à Bruxelles sur une matrice de prise de décision, un travail d'intervision d'un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire à Bruxelles. On s'est inspiré de la fondation Marius Jacob, qui, elle, pour le coup, est complètement en autogestion. Donc, la fondation Marius Jacob, c'est un outil financier collectif et autogéré, qui soutient des résistances, des alternatives et des luttes sur le territoire bruxellois. Et dans lequel les tâches sont complètement réparties entre différents groupes de travail, et des assemblées, donc c'est une logique assembléiste dans laquelle se fixent les orientations stratégiques et politiques. Financièrement, c'est différent de design éthique, puisque on mutualise en fait un pourcentage de nos revenus pour ceux qui travaillent, de 1 à 2% pour financer ces bourses qui aident les luttes. Et puis on va chercher aussi des dons qui sont plus ponctuels ou des legs. Donc pour revenir à la matrice, on est vraiment reparti en fait d'une analyse en disant oui, mais quels sont les niveaux de participation, qu'est-ce que ça nécessite. Et la première élément qui nous paraissait important, c'était l'information, enfin être informé sur ce qui se passe, hein. Donc Karl en parlait tout à l'heure, enfin c'est vrai que c'était relativement obscur dans la manière dont ça fonctionnait, c'était difficile d'avoir une vue d'ensemble. Donc ça, c'est un premier élément de la matrice. Il y a un autre élément qui est la consultation. Demander l'avis, consulter, etc. Le troisième qui est la concertation, et le quatrième donc qui est la codécision. Alors pour revenir tout à l'heure sur les choix qui ont été faits, donc on est donc maintenant organisé par cercle pour coller à la réalité du fonctionnement. En fait, c'est un petit peu reparti de l'existant. Enfin, en tout cas de mon côté, la sociocratie, l'holocratie, c'est pas vraiment quelque chose que je connais. Enfin, je trouve ça des mots un petit peu compliqués. Enfin, qui m'énervent un peu en fait. Je préfère dire voilà, on fonctionne en gouvernance partagée. En mode cercle, restons simples. Donc, comme je disais, le choix 2, c'était vraiment d'avoir des adhérents égaux et cooptés. Le choix 3, de prendre des décisions par consentement qui vont être dépendantes de l'importance de la décision. Alors, le premier choix, cette organisation par cercle, évidemment, ça nous permet, enfin, ça permet, on l'expérimente encore, hein, donc c'est assez nouveau pour nous et enfin, on va s'alimenter de l'expérience. Et il faut savoir que ces statuts ne sont pas figés, donc je pense que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir re-questionner en permanence en fonction de nos vécus et aussi de nos situations, puisqu'on est répartis de manière assez territoriale et que la réalité de la Belgique n'est pas celle de la France. Donc voilà, mais ça c'est plutôt le futur. Mais donc ça permet d'être assez souple. Et de ne pas nécessiter d'avoir l'intégralité du groupe pour agir, en tout cas sur des aspects opérationnels.
Est-ce que ce fonctionnement par cercle, vous l'avez préféré parce qu'il correspondait peut-être déjà au fonctionnement par comité qui était préexistant dans l'association, ou pas du tout ?
De mon point de vue, oui. Enfin, je pense que c'est pas quelque chose qu'on est allé chercher dans la sociocratie. On est vraiment parti de ce qui se passait en fait avec ces comités, etc. Et en disant, ben voilà, enfin, repartons de ça. Et les cercles viennent de là. Enfin, de mon point de vue, en tout cas. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, ok. Donc ce fonctionnement en cercle, donc ça collait donc comme je disais à la réalité du fonctionnement. Donc ça permet de gérer des capacités variables d'engagement entre celles qui consacrent quelques heures et celles qui pour lequel il s'agit d'une activité professionnelle. Et à l'intérieur de chaque cercle, donc l'organisation est assez libre, avec la nécessité d'informer, donc c'est cet élément d'information, le reste des membres de l'avancée des travaux. Donc une fois par mois, on a une mensuelle où on se retrouve au moins avec un lien par cercle pour se mettre au courant les uns les autres de l'avancée des travaux à l'intérieur de chaque cercle. Donc chaque cercle a donc une facilitatrice aussi qui a le rôle de faire vivre les cercles. Donc il y a un rôle de facilitateur, facilitatrice à l'intérieur des cercles.
Est-ce que tu peux donner des exemples de cercles ?
Alors, des exemples de cercles, on a des cercles qui sont plutôt des cercles orientés projet. Donc, il y a un travail qui se fait notamment sur l'éco-conception numérique. Donc, c'est un cercle. Il y a un cercle de travail sur l'intelligence artificielle. Il y a un cercle sur les dark patterns et le design de l'attention. On a aussi un cercle de coordination. Voilà, des exemples de cercles. Donc ça correspond soit à des activités de recherche ou soit à des activités qui sont récurrentes, intercercles en fait, notamment ces cercles de coordination.
Et pardon, du coup, j'en profite pour mieux comprendre le fonctionnement par cercle. Comment on entre et comment on sort des cercles ?
Alors pour rentrer et pour sortir d'un cercle, soit c'est une allocation ouverte des rôles. Et en général, ça part d'une envie, quoi. Donc je pense que c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui, en tout cas de manière assez spontané. Tout le monde peut rentrer dans un cercle. En tout cas, tous les adhérents, membres actifs peuvent entrer dans un cercle. Ça peut être aussi des membres du cercle qui font appel à des ressources, enfin, de nouveau un drôle de mot, à des personnes extérieures. À des personnes amies qui vont rentrer dans le cercle, enfin, comme un cercle pourrait faire appel aussi à une compétence particulière qui n'existerait pas et qui duquel on aurait besoin à un moment donné par rapport au travail du cercle. Donc voilà, c'est un peu pour moi l'entrée dans un cercle au niveau des adhérents. Tout le monde peut rentrer dans un cercle, il n'y a pas vraiment de conditions. Les rôles qui sont tenus à l'intérieur du cercle, soit sont des rôles ouverts, et puis si personne ne prend le rôle, ça peut être une élection sans candidat. Et dans l'idéal, les facilitateurs, enfin, il y a un certain nombre de rôles à l'intérieur des cercles qui ne doivent pas être tenus par la même personne pendant toute la durée de vie du cercle. Donc, il y a des rôles qui peuvent être interchangeables. Mais voilà, les cercles fonctionnent comme ça.
Pour enchaîner sur les autres éléments de votre gouvernance, du coup, les modalités de prise de décision, donc tu as dit vite fait élection sans candidat, par exemple, pour nommer des gens à des postes. Et le consentement, ça s'est venu comment, du coup ?
Le consentement, je pense que c'est venu assez spontanément.
Si je peux reprendre la parole sur ça, le consentement, c'est venu en fait... alors, c'était déjà présent dans nos précédents statuts, même si on ne l'appliquait pas vraiment. C'est quelque chose qui tenait notamment beaucoup à cœur à Raphaël, qui était aussi un des membres importants dans la réécriture des statuts. Et en fait, le consentement, c'était un peu un point de départ qui visait à dire que... À partir du moment où tu veux pas de hiérarchie, il faut quand même que tous les membres y soient d'accord. Alors plus précisément, c'est pas un système de consensus, c'est-à-dire qu'on ne demande pas à ce que tout le monde dise oui, on demande à ce que personne dise non. Et le personne dise non, c'est notamment qu'on peut évoquer, enfin en tout cas faire ressurgir des objections qui peuvent être liées par exemple à la raison d'être de l'association, à la mise en danger de l'image de l'association, etc. On a eu un exemple il y a quelques jours, très concret. Ça, en fait, c'est assez intéressant parce que d'ailleurs, avec Ludo, on a préparé l'épisode avant et on n'avait pas cet exemple. Le fait qu'on a publié une tribune de l'association appelant à voter contre l'extrême droite puisque donc là on enregistre l'épisode, vous ne le savez pas, nous ne savons pas ce que sera le futur du gouvernement en France, mais donc nous on est à 3 jours du second tour des législatives et donc on a publié une tribune il y a quelques jours pour dire qu'on s'opposait à l'arrivée de l'extrême droite en France et la grande question c'était de savoir est-ce que on appelait à voter ou pas pour le nouveau Front Populaire. Et donc, voilà, là, pour le coup, on était assez divisés entre nous. Et donc, cette question du consentement, elle a été un peu, justement, à mon sens, c'était un peu le premier cas où, en fait, on l'a vraiment utilisé, où on a vraiment eu un débat sur est-ce qu'on doit ou pas le faire. Finalement, qui s'est assez facilement tranché, puisque la grande majorité des membres ont penché du côté de ne pas appeler à voter pour le nouveau Front Populaire, mais à rester dans une posture de lutte contre l'extrême droite. Mais finalement, c'est le premier moment dans la vie de l'asso où on a dû, pas forcément reciter les statuts, puisqu'on n'en est pas arrivé au point de dire « oui, mais les statuts disent que », mais en tout cas où cet exercice du consentement s'est vraiment tangibilisé dans une décision concrète.
Et de ce que vous avez présenté jusqu'à maintenant, il y a, moi, une différence que je trouve notable par rapport au truc un peu de la classique de la sociocratie. Il y a quelque chose qui vous démarque vraiment, c'est le système de liens que vous n'avez pas forcément récupéré, c'est-à-dire ces personnes qui sont à la fois dans un cercle et qui vont aussi dans un autre cercle et comme ça qui peuvent un peu alerter sur « ah, il y a une décision qui se prend là et en fait qui concerne tel autre cercle ». Mais donc vous avez à la place un autre système qui fait un peu ce truc-là, si j'ai bien compris, c'est les niveaux stratégiques, enfin des niveaux, différents niveaux de décision qui permettent de néanmoins prendre en compte, tiens, est-ce qu'il faut alerter d'autres gens ou pas, c'est ça ?
Alors, je pense que là, c'est assez intéressant de revenir un petit peu sur cette matrice et quelles sont les dimensions de prise d'une décision en fonction des décisions stratégiques, coordination et opérationnelles. Donc, lorsque des décisions stratégiques sont prises, donc ils vont modifier fortement les objectifs qu'essaie d'atteindre l'association, donc la décision stratégique ne se passe pas au niveau de l'échelon du cercle, elle ne se passe pas au niveau de l'échelon du cercle de coordination, donc tous les adhérents co-décident et la communauté est informée. Au niveau des décisions de coordination, donc ça ne se passe pas non plus au niveau de l'échelon du cercle, en tout cas l'échelon du cercle, ça se passe au niveau de l'échelon du cercle de coordination, donc qui va co-décider. Les adhérents sont concertés et la communauté est informée et l'opérationnel, là, il y a des co-décisions qui sont prises à l'échelon du cercle. Le cercle de coordination peut être concerté, les adhérents sont consultés et la communauté informé. Après, je pense que les décisions qui sont prises à l'intérieur des cercles, bah, elles sont discutées au moment de ces mensuels. Et là, c'est quand même un endroit où, lorsqu'il y a vraiment des décisions importantes à prendre, elles sont mises sur la table et discutées collectivement au niveau, à l'échelon de tous les adhérents.
Moi, je trouve ça, c'est passionnant. Et évidemment, c'est toujours intéressant, de toute façon, quand on se lance dans ce type de réflexion dans une organisation associative ou autre, hein, d'ailleurs. Mais moi, j'aime bien ta posture, Pascal, et la manière avec laquelle tu présentes les choses, et notamment ce recul sur les outils en tant que tels. Parce que la sociocratie, l'holacratie et compagnie, tout ça, c'est finalement des outils. Et il y a souvent un piège, c'est de prendre les outils sur l'étagère, la grande étagère des outils, et avoir l'obsession de les utiliser tels qu'ils sont et tels qu'ils sont pensés, théorisés. Et parfois, ils sont extrêmement complexes. L'holacratie, par exemple, c'est extrêmement complexe. Et si on ne fait pas ce petit pas de côté consistant à dire bah oui, on y pioche des choses intéressantes là-dedans, mais on n'est pas obligé de reprendre tout, et en tout cas on fabrique notre propre outil en fait, parce que on est unique dans le paysage. On peut se faire piéger aussi par la force de ces outils-là. Moi, j'ai vu des organisations qui se perdaient à essayer d'appliquer à la lettre des sortes de théories d'utilisation de trucs managériaux, etc. Plus c'est complexe, plus il y a de consultants derrière qui vendent un décryptage de la complexité. Je pense qu'il faut avoir ça en tête, en fait. Donc, en réalité, ce que vous dites, c'est finalement extrêmement simple. Moi, j'aime bien un auteur qui s'appelle François Rousseau, qui a travaillé pendant très longtemps à la Fédération Léo Lagrange, et qui est un des seuls, finalement, dans le monde associatif à avoir un petit peu théorisé et réfléchi à la manière avec laquelle on articulait gestion de l'organisation et militance. Et il est vachement intéressant, François, là-dessus. Et ce qu'il dit, c'est qu'on a évidemment besoin de s'inventer des outils de gestion du sens dans les organisations. Donc, par exemple, rediscuter des statuts, c'est un outil de gestion du sens. Mais à la limite, on s'en fout finalement de la manière avec laquelle on les écrit, les statuts. C'est-à-dire que les statuts, on les mobilise quand il y a un gros clash. En réalité, c'est pas ça qui fait fonctionner l'organisation au quotidien. Par contre, se dire, on va mettre en place on va discuter, on va se mettre dans un processus de réflexion autour d'une rénovation des statuts, et ça va peut-être prendre 2 ans. Bah, c'est ça qui est important, en fait, dans l'histoire. C'est le chemin qui est plus important que la destination elle-même. Et donc, ça montre l'importance de la délibération, en fait, dans ces moments-là. Pardon, je prends la parole un peu longtemps, mais je continue là-dessus. Une chose, par exemple, fondamentale que vous avez finalement mis en place presque par hasard, mais c'est ces réunions physiques tous les 6 mois. Et en réalité, c'est peut-être le truc le plus important. C'est-à-dire que les statuts, on peut les écrire comme on veut, mais en réalité, le fait de se dire tous les 6 mois, on se retrouve et on passe du temps ensemble, on a de la connivence, on boit des coups, on mange ensemble, et on discute de tout et de rien. En fait, c'est le truc le plus important, en fait, pour que ça marche en réalité. C'est ces moments de rencontre physique, et peut-être aussi le fait de se dire, ben, le sujet de l'organisation et de la gouvernance en tant que tel, c'est un sujet qu'on continue à interroger. Il n'est pas figé. Voilà, il est en cours depuis longtemps. On le remet sans arrêt sur le tapis, etc., etc. Et ça, c'est sans doute le truc le plus important, parce qu'en fait, c'est une question qui ne s'arrête jamais, parce que l'association, elle vit, il y a des nouveaux, etc. Donc, on est perpétuellement obligé de remettre ça sur le tapis, non pas pour changer les choses, mais pour les réinterroger et pour recréer de la délibération autour de ces questions. Oh là là, il y a du bruit ici.
Et c'est précisément, je pense, pour ça qu'on s'appelle designer éthique, l'éthique n'étant pas le bien, mais le chemin qui cherche à faire mieux. Et donc, justement, c'est pour ça qu'on interroge aussi, finalement, ces modèles-là.
Et bien, du coup, peut-être on va revenir aussi à la question de Stéphane tout à l'heure sur, sur le salariat. Est-ce que dans votre processus, c'est posé la question de « Ah, mais là-dedans, est-ce que ça ne va pas être chiant pour les salariés ?» Ou au contraire, qu'est-ce qui est facilitant pour les salariés ?
Je peux commencer à répondre.
Et je peux en profiter pour coupler la question. Du coup, pardon, je reviens sur ce truc de cercle, parce que comme vous le décriviez... Et d'ailleurs, merci beaucoup Stéphane là, pour ton développement sur les outils qui donnent du sens. Je trouve que c'est hyper, hyper intéressant. Moi, d'un point de vue extérieur, ça m'a l'air méga chronophage. Du coup, c'est pour ça que je le lis à la question du coup, de salariés, bénévoles. C'est-à-dire, si vous avez que, j'ai compris, une dizaine d'adhérents avec pour le moment un salarié et demi, que par contre, j'ai l'impression qu'il y a 40 milliards de cercles. Alors, j'imagine pas, mais on va dire une dizaine de cercles, ce qui est quand même déjà... Une trentaine de cercles, donc ce qui est déjà pas mal. Et là, on a...
Ah ouais ?
On n'a pas encore parlé de l'administratif, du financier et de...
Ça les inclut.
Et de tous ces trucs-là, ok. Du coup... Ouais, concrètement, comment... Alors, parce que si tout le monde... Enfin, moi, le seul truc qui me fait toujours un peu... comment on dit, les warnings, quand on parle de ces types de modèles, c'est le côté un peu organique de tout le monde peut rentrer comme il veut, tout le monde peut dire dont je ne suis pas d'accord ou oui, je suis d'accord. Et du coup, peut-être, est-ce que vous avez des points de vigilance là-dessus ou juste concrètement, est-ce que vous avez un peu de recul sur est-ce qu'il y a une personne qui est dans les 30 cercles et il y a des gens qui sont que dans un seul cercle. Et du coup, vous voyez, c'est en fait cette dynamique informelle qui doit, j'imagine, exister. Je ne sais pas si vous avez...
Évidemment que c'est organique.
Et du coup, pardon, et la place des salariés là-dedans, bien sûr.
Évidemment que c'est organique parce que, en fait, sur les aspects administratifs de l'asso, c'est principalement moi qui m'en occupe. Donc, ça veut dire qu'effectivement, par exemple, le cercle compta, finance, budget...
T'es tout seul.
Je ne sais pas si je suis tout seul, mais effectivement, c'est moi qui le fais. Après, nous, on a fait le choix de professionnaliser ces aspects-là. Donc, en fait, ça veut dire que ce n'est pas forcément que du bénévolat. Et donc, ça sous-entend aussi que c'est des charges de travail qui sont rémunérées et que ce n'est pas forcément une souffrance. Parce qu'effectivement, un point qu'on n'a pas dit, c'est que le week-end où tu étais venu, Yael, il y a 3 ans, quand on fait le bilan à la fin du week-end de tout ce qu'il faudrait qu'on fasse et des modifications qu'il faudrait qu'on ait dans l'asso, et qu'on pose, Mélie et moi, la question aux autres membres de l'association, mais en leur disant de manière assez cash, oui, mais alors concrètement, est-ce que vous voulez faire toute cette partie d'animation de la vie et de l'administration de l'association, globalement, la réponse, c'est non. Donc, en fait, ça pose la question de comment est-ce qu'on va vers un fonctionnement plus démocratique, plus horizontal, tout en ayant une administration de l'association qui soit, en fait, toujours faite par les mêmes personnes. Et moi, ça ne me dérange pas de le faire. J'ai toujours dit que j'aimais bien faire ça dans l'asso, tous ces aspects de budget, etc. Mais en fait, ça sous-entend qu'on a trouvé un autre modèle qui est que, en fait, on rémunère ceux qui le font pour le travail fait et en fait, on sort ça de la gouvernance. Après, donc, finalement, on n'a pas vraiment de personnes qui sont dans les 30 cercles maintenant. En tout cas, c'est plus vraiment le cas. Il y a des personnes comme Mélie, moi, qui sont dans énormément de cercles. Mais je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis dans la moitié des cercles. Mais c'est ce qui fait aussi que j'y passe un mi-temps, en fait. Parce qu'effectivement, on fait énormément de travail de coordination. Quand on dit travail de coordination, ça sous-entend informer les gens, dire il y a un tel qui peut porter le projet, est-ce que ça t'intéresserait de pas participer, etc., etc. Tu veux dire ?
T'es pas rémunéré, toi, pour ton mi-temps ?
Alors, je suis partiellement rémunéré. C'est un sujet qui est en cours de discussion pour cette année. J'ai été rémunéré à un moment. En fait, je suis un peu, moi et Mélie, on est un peu les deux derniers à être rémunérés. C'est un peu bizarre, mais en fait, on se rémunère quand on a le budget de se rémunérer pour faire le reste. Maintenant que le modèle économique de l'association évolue, c'est aussi plus facile de se rémunérer. Parce que, justement, ces frais de fonctionnement de l'asso, en fait, on les incorpore plus facilement dans les projets qu'on ne les incorporait avant. Qu'est-ce qu'on disait ? Pardon, ouais.
Non, on va enchaîner.
Et puis, il y avait le salariat aussi.
Ouais, la place des salariés. En fait, on a une place des salariés alors, qui est un peu qui est différente selon les salariés. On n'a pas de système simple. On a une salariée qui est adhérente Anne et qui donc elle est très très autonome. Finalement, elle prend ses décisions seule. Par exemple, un cas qu'on est en train de se poser aujourd'hui parce qu'on est en train de salarier Thomas, c'est la gestion des congés. Ça fait 2 ans que Anne est salariée, ça fait 2 ans qu'elle pose ses congés comme elle veut en fait. Enfin, il y a pas de contrôle hiérarchique fort de ce qu'elle fait, même si dans les faits, elle peut pas complètement faire n'importe quoi. Et donc c'est bien pour ça qu'elle reste salariée, parce qu'en fait, ses supérieurs, son employeur reste le corps des adhérents et elle est minoritaire dans le corps des adhérents. Donc elle peut pas faire n'importe quoi et dire je double mon salaire si j'ai envie en fait. Donc de ce point de vue-là, il y a quand même une notion hiérarchique, mais elle est extrêmement autonome. Thomas, qui est pas encore adhérent, il est beaucoup moins autonome que Anne. Alors dans la réalité des faits, il gère son emploi de la façon dont il l'entend. Mais pour le moment, il n'a pas encore cette latitude de décision qu'a Anne dans s'investir dans les projets dans lesquels elle veut s'investir, ne pas aller là où elle n'a pas envie d'aller, etc. Finalement, on a un système où, je ne sais pas si on a le droit de le dire, comment on peut le dire, etc., mais le système de salariat interne, c'est une sorte de freelance stable. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un freelance où tu es payé tous les mois, mais tu as la quasi même latitude d'action qu'un freelance de l'asso qui peut décider ou pas de s'investir dans un projet. C'est juste qu'en fait le mode de rémunération est différent. Mais donc, ouais, tu te vois hausser des sourcils.
Il y a quand même le temps, non, j'imagine.
Alors, finalement, le temps passé, oui et non. C'est-à-dire que on calcule pas nécessairement précisément les heures de travail passées par les salariés de l'asso. Moi, je demande à Anne de effectivement monitorer suffisamment son temps pour dire que si jamais on a des contrôles de l'URSSAF, etc., on peut montrer qu'elle est bien salariée de l'asso, qu'elle a bien une activité récurrente, qu'elle travaille bien au quotidien pour l'asso, qu'elle a des missions qui sont fixes, qui sont données, etc. Et ça, c'est le cas. Mais après, on n'oblige pas Anne à aller s'investir dans un projet où elle n'a pas envie de s'investir, au même titre qu'un freelance de l'asso n'est pas obligé d'aller faire une action qu'il n'a pas envie de faire. Et ça, c'est une décision qui est plus, pour moi, une décision de gouvernance qu'une décision d'employeur, en fait. Tu veux rebondir, Pascal ?
Non, j'approuve complètement. Parce que,
et en revanche, Stéphane, tu voulais réagir ?
Ouais, parce que... alors, c'est rigolo parce que plusieurs fois, en fait, dans la conversation, on parle de l'horizontalité comme s'il y avait une sorte d'obsession à ce qu'il y ait une horizontalité, je sais pas, dans la prise de décision, tout le monde prend les décisions, voilà. Et par contre, quand tu commences à parler du travail d'Anne, tu utilises, je sais pas si c'est un lapsus révélateur, et tu dis elle a des supérieurs. Et en réalité, je fais l'avocat du diable, mais je me dis, tiens, c'est intéressant parce qu'en réalité, je crois qu'on intervertit la problématique de l'horizontalité là-dessus. Qu'à l'intérieur d'une association, il y ait des gens qui prennent davantage part au projet, qui soient davantage investis, qui prennent soin de l'organisation beaucoup plus que d'autres, etc. Mais ça pose aucun problème. Enfin, je veux dire, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Qu'il y ait une forme de hiérarchie à un moment donné, ça pose pas de problème non plus. En réalité, c'est comment elle est pensée. Tu sais, enfin, moi, j'ai un vieil associé ici à Copadam qui s'appelle Joseph, qui prend toujours l'exemple des pompiers. Oui, quand tu vas éteindre un feu avec une troupe de pompiers, t'as intérêt à avoir une hiérarchie. Sinon, tu fais sacrément des conneries, quoi. Donc, la question, c'est pas de savoir comment, s'il y a une hiérarchie ou s'il y en a pas. C'est comment elle est discutée, comment elle est mise en œuvre, comment est-ce qu'elle est mise en œuvre et rediscuter. Quel mandat, pour combien de temps, etc. Pourquoi faire, quelle responsabilité. Donc en réalité, qu'il y ait une non-horizontalité dans la communauté des personnes de l'association, c'est pas vraiment un problème. À partir du moment où, en effet, on interroge le pouvoir. On interroge le pouvoir régulièrement, on délibère régulièrement là-dessus, on a bien conscience de où se trouve le pouvoir et où il ne se trouve pas. Peut-être que le fait que tu sois seul à tenir la comptabilité, la gestion, etc., te donne un pouvoir qui est absolument exorbitant dans le truc. Voilà. En revanche, quand on est dans l'ordre du travail, moi je crois qu'il y aurait quelque chose de vraiment intéressant dans la plupart des associations à vraiment se poser à faire de la fonction employeur un enjeu collectif et qui est, tu vois, quand tu poses la question, est-ce que ça relève de la gouvernance ou de la fonction employeur? Moi, je pense que on loupe quelque chose dans les associations et aussi dans les coopératives, dans les mutuelles. Vraiment là-dedans, on tombe tous dans le piège. On a tendance à reproduire les bons vieux schémas managériaux ou à vouloir les nier complètement. Et en les niant complètement, en fait, on a tendance à faire n'importe quoi. On ferait mieux d'essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on le fait de manière conforme à ce que l'on est et à nos principes. Voilà. Et donc, en réalité, la fonction employeur, c'est peut-être une fonction de gouvernance. On a peut-être intérêt à réfléchir collectivement à comment est-ce qu'on gère la fonction employeur et donc le salariat à l'intérieur de notre organisation.
On a peur de l'URSSAF un peu quand même.
Pardon ?
On a peur de l'URSSAF quand même un peu.
Ouais, c'est un peu...
Ouais, c'est ce que j'ai à dire, parce qu'en fait, cet épisode vient juste après un précédent épisode où précisément le modèle qui était présenté, c'était comment est-ce qu'on fait de l'autogestion quand on a des salariés ? Et du coup, comment, quand les salariés prennent part, prennent part aux instances de décision ? Et en fait, toutes les limites qu'on a vues, bon, alors, effectivement, la première, elle est fiscale. Et là, dans ce cas-là, ça posait pas trop de problèmes parce que c'était une association qui recevait des subventions et qui, quand elle dépensait pas tout, rendait l'argent. Donc, il y a un côté de, on est vraiment très, très désintéressé. Et en fait, le point de ce qu'on a compris qui un peu provoquait des tensions, en fait, c'était la question de la subordination. Parce que si, du coup, les salariés... En fait, c'est elle qui était dans les instances de décision. Et ben, si on devait licencier quelqu'un, par exemple, comment ça se passe et comment en fait on gère. Et c'est sûr que autogestion et subordination, ça rime pas très bien ensemble, quoi.
Et de ce point de vue-là, nous, enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a les points auxquels je suis vigilant quand on monte les contrats, c'est notamment la qualification du contrat. C'est-à-dire, par exemple, Anne, elle est en CDI, mais à un moment, elle était, comme Mélie et moi, on l'a été aussi, mandataire sociale. Et en fait, elle était mandataire sociale parce que justement, elle était extrêmement libre de faire tout ce qu'elle voulait. Mais sauf que comme elle est mandataire sociale, eh ben, elle ne cotise pas au chômage, elle ne cotise pas... Enfin, tu vois, tu as plein de systèmes auxquels elle échappe. Et donc, on a fait le choix justement de la repasser en CDI parce qu'en plus, ça nous coûtait moins cher en termes de salariat. Et aussi pour qu'elle soit plus protégée au titre de ses avantages sociaux. Et en fait, ça, c'est effectivement, je rejoins complètement ce que tu dis. En fait, je suis complètement d'accord avec toi, Stéphane. Et effectivement, comme le dit Ludo, notre seule crainte, c'est l'URSSAF. C'est comment le jour où on se fait contrôler. En fait, justement, en gérant les finances de l'asso, je mets volontairement de l'argent de côté chaque année en me disant un jour on va être contrôlé par l'URSSAF. C'est sûr qu'on va se faire taper dessus pour une raison ou une autre. Je sais pas laquelle ce sera, mais en fait, c'est tellement le bordel dans la réglementation sur les assos et sur ces modèles un peu alternatifs. Qu'il y a forcément des trucs qu'on fait pas bien. En fait, c'est obligé, quoi.
Moi, je suis pas sûr que ça soit l'URSSAF le principal problème.
Ah ouais.
Oui. Par contre, la CEDIC, ça peut en être un.
Ok.
À un moment donné, en effet, pour quelqu'un qui est salarié dans une posture de direction, machin, où
justement,
la subordination n'est pas claire.
Parce que et c'est précisément ça qu'on a retravaillé. Et je pense qu'aujourd'hui, on est assez clair sur ça. Le lien de subordination de Anne s'exprime au fait, au sens où finalement, si elle veut prendre une décision qui la concerne, nos statuts disent explicitement que c'est pas possible. En fait, nos salariés ont le droit de faire ce qu'ils veulent en termes d'action. Par contre, ils n'ont pas le droit de prendre des décisions qui les concernent eux-mêmes.
Malheureusement, bon, il nous restait plein de questions. J'en ai plein en rouge là où je me dis ah c'est dommage qu'on puisse pas en parler. Mais c'est plus ou moins l'heure où on doit conclure.
Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Et en plus, ça tombe quand même bien parce que là, cette question un peu d'horizontalité, d'autogestion, on la traite là sur, on la décline avec plein d'organisations différentes. Donc, effectivement, on a eu le planning familial de Seine-Saint-Denis la dernière fois. On va avoir Brin de Paille juste le mois prochain.
Donc, je crois que ce sera le mois d'avant pour ceux qui nous écoutent.
Alors, le mois d'avant, le mois prochain. Bref, en tout cas, c'est quasiment dans les cartons. Donc, je pense que là, il y a dans notre cycle sur l'autogestion et de réflexion, ça va marcher en empilement sur toutes ces briques et ces illustrations. Donc, merci beaucoup, Stéphane.
Merci.
Merci beaucoup, Pascal, et merci beaucoup, Karl, et merci beaucoup, Ludo, aussi, d'avoir été là pour cet épisode, dans ce nouvel épisode, du coup, de questions d'assaut. Mais ça, on le savait, le podcast par et pour les assauts. Et surtout, merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura été utile et que vous avez pris plaisir à l'écouter. Et si notre discussion, comme d'habitude, a fait écho à des situations que vous avez pu vivre ou que vous vivez ou des questions que vous vous posez, n'hésitez pas à nous écrire à hello@question-asso.com pour qu'on en parle. Et on l'a déjà fait. D'ailleurs, Ludo, t'en es un exemple. On a déjà monté des épisodes avec des auditeurs et des auditrices. Et à partir de là, donc on est preneur aussi de vos conseils ou de vos interrogations ou de vos bonnes idées là-dessus ou de vos doutes. Et pour rappel, en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Music, Peertube, et à nous écouter sur le site directement, à vous abonner sur la newsletter. Bref, toutes les informations sont sur le site web. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Maïf. Aujourd'hui, c'est Guillaume Desjardins de Synchrone TV qui était à la réalisation. Et la jolie musique que vous allez maintenant entendre est l'œuvre de Sound of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Questions d'assaut.
Question d'assaut.
Le podcast par et pour les assauts.